Notre espérance est en Dieu. Que chacun de nous reçoive de lui la grâce, la miséricorde et la paix, sans condition, comme un fruit de son amour. Alors vraiment, c'est une joie d'être assemblé ainsi pour s'ouvrir dans cette maison à sa présence, pour entendre sa parole et pour le célébrer. Alors chantons notre Dieu avec le premier chant que vous trouverez dans le petit livret qui est au début du psautier français, « Bénissons Dieu, le seul Seigneur ». Ô Éternel notre Dieu, quand je regarde ton ciel, ouvrage de tes doigts, qu'est-ce que la personne humaine pour que tu penses à elle et la visites? Tu l'as fait de peu inférieure à Dieu, la couronnant de gloire et de magnificence. Tu l'établis sur les œuvres de tes mains, tu mets toutes choses à ses pieds. Ô Éternel notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Et je vous propose de poursuivre dans la louange avec le chant du psaume 95b dans le psautier français. Réjouissons-nous au Seigneur, égayons-nous en son honneur. Les trois strophes, trois premières strophes de ce psaume 95b. Voici ce que Jésus-Christ nous propose comme ligne directrice pour notre vie. Écoute le Seigneur ton Dieu, c'est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence. C'est là le premier et le grand commandement, et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aucun commandement n'est plus grand que ces deux-là. Alors face à cet idéal infini de l'amour, nous nous tournons vers Dieu pour lui demander son pardon et son aide. C'est ce que je vous propose de faire avec cette prière vieille de 15 ou 16 siècles. Viens Seigneur et cherche ton serviteur. Viens bon berger, cherche la brebis épuisée, laissant les autres libres d'aller et de venir. Viens chercher la seule qui est perdue. Viens vers moi que guette l'incursion des loups. Cherche-moi dans les vallées ombreuses. Cherche-moi, trouve-moi, accueille-moi et porte-moi. Certainement tu peux trouver celui que tu cherches. Daigne accueillir celui que tu trouves. Place-le sur tes épaules, celui que tu as accueilli. Par ton amour, cette charge n'est pas pour toi un fardeau, mais une joie, celle de sauver un pécheur. Viens donc, Seigneur, chercher ta brebis, viens toi-même et porte-moi. Toi qui es salutaire à ceux qui sont perdus, toi qui es un repos pour ceux qui sont fatigués, toi qui es vivifiant pour ceux qui meurent, viens et il y aura le salut sur la terre et la joie au ciel. Mais voici ce que nous pouvons entendre de la part de l'Éternel, comme donc un Dieu qui se penche vers nous et qui nous dit « Même si les montagnes s'effondraient, même si les collines chancelaient, ma bonté pour toi ne faiblira pas, et mon alliance de paix avec toi ne sera jamais ébranlée, car je t'aime d'un amour éternel. » Et effectivement, en Christ l'Éternel, notre Dieu, se penche vers nous et nous dit « Mon enfant, ton péché est pardonné, ta foi t'a sauvé, avance dans la paix. » Nous chantons à Dieu notre reconnaissance.
Alors vous pouvez prendre place. Et puis j'accueille donc Madame Isabelle Agier avec grande joie. Bienvenue tout particulièrement à vous. Bravo pour ce courage, bien sûr, de pousser des portes, de chercher, de creuser, et puis de venir au milieu, comme ça, de deux, trois personnes en ce dimanche matin, Alors c'est une grande joie pour nous et c'est un cadeau que vous nous faites. Nous avons de la chance que vous nous ayez choisis comme échantillon de l'Église chrétienne universelle qui dépasse largement toutes les confessions et en particulier comme paroisse protestante. Alors merci pour tout ce qui vous anime de si riche, les héritages familiaux donc de protestantes ardéchoises et aussi de catholiques espagnoles. C'est vrai que ça fait un peu comme un grand écart, donc c'est intéressant. Et puis les apports de l'histoire et surtout de la philosophie, vos lectures, peut-être Paul Ricoeur, Lita Basset, des personnes qui nous sont ici un peu chères, vos engagements aussi, parce qu'effectivement nous nous constituons d'un héritage familial, d'une prière, de lecture, mais aussi de nos engagements, alors de engagements de magistrates, d'élus, de militantes. Alors tout cela vous a apporté, vous avez fait, comment dire, une sorte de nourriture de tout cela, et d'une façon mystérieuse et personnelle, pour venir dire votre foi à Dieu d'abord dans votre cœur, mais aussi publiquement, aujourd'hui, au milieu du peuple chrétien, dont nous sommes un échantillon. Heureux de vous recevoir. Alors vous avez été autrefois baptisé, et c'est le signe d'un amour de Dieu donné inconditionnellement, et justement un amour, une liberté de Dieu, qui n'est pas la nôtre, de nous accueillir dans son alliance. Ensuite, c'est vrai que ça ouvre une liberté de faire ce qu'on veut, finalement, de cet amour qui nous a précédés, d'entrer ou de ne pas entrer consciemment dans son alliance. Aujourd'hui, Isabelle, eh bien, vous dites oui à ce Dieu qui vous a dit oui. Vous dites à ce Dieu qui vous a dit « Tu es ma fille bien-aimée, eh bien, tu es mon Père que j'ai dans les cieux. » Et vous avez choisi de le dire avec une confession de foi. Bon, alors c'est ce qu'on vous demande de préparer un peu. Vous avez choisi une confession de foi qui est celle de l'oratoire du Louvre, en fait. Donc, ça tombe bien, j'allais dire, puisque nous avons ainsi la joie d'entendre cette confession de foi. Vous avez juste changé un tout petit peu, ce qui permet aussi de montrer cette liberté. Alors, je vous propose de vous lever pour vous associer donc à cette confession de foi chrétienne que va nous dire Isabelle.
Oui. Jésus-Christ est le Seigneur. Je crois en Dieu le Père, tout-puissant, créateur des cieux et de la terre. L'Éternel règne, il est esprit, il est amour. L'amour de Dieu envers nous s'est révélé en ceci, alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Je crois en Jésus-Christ, notre Seigneur. Il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Il est le chemin, la vérité et la vie, le même hier, aujourd'hui, éternellement. À ceci, tous reconnaîtront que nous sommes ses disciples, si nous avons de l'amour les uns pour les autres. Je crois au Saint-Esprit qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous avons été baptisés d'un seul esprit pour former un seul corps. Je crois au royaume de Dieu, à l'amour plus fort que la mort. Je crois à la vie éternelle, non pas comme la continuation de la vie d'ici-bas en un autre lieu. Je crois à ma façon, à l'immortalité de l'âme. La victoire par laquelle le monde est vaincu, c'est notre foi. Seigneur, augmente-nous la foi.
Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre et d'éternité en éternité. Alors vous pouvez prendre place. Vous restez là. Alors vous avez voulu compléter cette déclaration de foi, donc quand même un peu théologique, ce qui est vraiment, je dirais, utile de creuser dans son existence, par un autre volet, finalement, dans cette confession de foi. Vous avez choisi de nous dire ce texte de Martin Luther King, « Nous l'emporterons, we shall overcome », comme on dit dans la langue de nos amis de l'autre côté de la mer. Parce que ça va bien avec votre façon de penser, mais aussi votre engagement multiple dans la cité.
We shall overcome. Aujourd'hui, dans la nuit du monde et dans l'espérance de la bonne nouvelle, j'affirme avec audace ma foi en l'avenir de l'humanité. Je refuse de croire que les circonstances actuelles rendent les hommes incapables de faire une terre meilleure. Je refuse de croire que l'être humain n'est qu'un fétu de paille ballotté par le courant de la vie, sans avoir la possibilité d'influencer en quoi que ce soit le cours des événements. Je refuse de partager l'avis de ceux qui prétendent que l'homme est à ce point captif de la nuit sans étoiles, du racisme et de la guerre, que l'aurore gradieuse de la paix et de la fraternité ne pourra jamais devenir une réalité. Je refuse de faire mienne la prédication cynique que les peuples descendront l'un après l'autre dans le tourbillon du militarisme vers l'enfin de la destruction thermonucléaire. Je crois que la vérité et l'amour sans condition auront le dernier mot, effectivement. La vie, même vaincue provisoirement, demeure toujours plus forte que la mort. Je crois fermement que, même au milieu des obus qui éclatent et des canons qui tonnent, il reste l'espoir d'un matin radieux. J'ose croire qu'un jour, tous les habitants de la Terre pourront recevoir 3 repas par jour, la vie de leur corps, l'éducation et la culture pour la santé de leur esprit, l'égalité et la liberté pour la vie de leur cœur. Je crois également qu'un jour, toute l'humanité reconnaîtra en Dieu la source de son amour. Je crois que la bonté salvatrice et pacifique deviendra un jour la loi. Le loup et l'agneau pourront se reposer ensemble. Chaque homme pourra s'asseoir sous son figuier, dans sa vigne, et personne n'aura plus raison d'avoir peur. Je crois fermement que nous l'emporterons. Amen.
Un grand merci, donc, Isabelle, pour cette belle lecture très inspirante. Alors, c'est vrai que nous sommes aussi dans un enracinement, j'allais dire, dans une histoire personnelle, familiale, dont vous avez accepté de nous dire quelques mots. Alors, effectivement, ce n'est pas une leçon, puisque chaque histoire est particulière, mais ça peut nous inviter à trouver, nous aussi, dans notre histoire, des occasions de franchir des étapes. Et j'en profite donc pour saluer vos proches qui sont venus, voilà, vos enfants qui sont là. Et alors, c'est vrai que c'est une ouverture d'esprit de leur part, parce que ce n'est pas eux qui font leur confession de foi, mais donc ça montre aussi un respect, une amitié en famille, ce qui est important.
Je voudrais tout d'abord vous remercier de m'accueillir aujourd'hui dans votre communauté, dans votre église, comme on dit chez nous, pour mon retour à la religion de mon père et des siens. Je remercie chaleureusement le pasteur Marc Pernaud qui m'a rendu cette dernière étape d'un long cheminement si aisé et si naturel avec son accueil fraternel. Je veux également remercier mes enfants, Pierre, Clara et Isée. C'était pas prévu qu'ils soient tous là, avec leurs compagnons Victoire, Yuki et Alexandre, d'avoir accepté d'être présents à cette cérémonie, alors qu'ils se demandent sans doute quelles sont les raisons de ma démarche. Eux qui n'ont pas reçu de la part de leur mère ni de leur père la moindre éducation religieuse. Je pense qu'ils comprendront un peu mes raisons après ces quelques mots. Je n'ai pas grandi dans un environnement religieux. Ma mère était espagnole, mais elle n'était pas croyante. Nous habitions en Catalogne, près de Barcelone. Mon père, Louis, était français, lui, ardéchois, comme il aimait à se définir, par paillot, avec fierté. Il va sans dire que personne dans notre entourage ne savait ce qu'était qu'un par paillot, pas même ma sœur Anna et moi-même. Mais tous les ans, ou presque, Il nous emmenait en famille, disait-il, découvrir la France. La France, pour lui, c'était le pont du Gard, la Vin d'Orgnac et des Agnes, son village perché sur la côte qui mène au plateau du Haut-Vivarais, et le Chambon-sur-Lignon, où il nous emmenait en excursion, c'était même l'excursion de l'été, et honnêtement, nous ne comprenions pas du tout pourquoi. Donc, des Agnes et son temple furent pour moi mon premier contact avec le protestantisme, tout petit village ardéchois qui porte encore de nos jours la trace de la religion réformée si enracinée dans cette région. Il a encore une tour et des fortifications datant des guerres de religion, où il était un bastion des troupes huguenotes, et surtout un temple surdimensionné, perché en haut d'un monticule et qui surplombe le village. Il a été démoli le 17 novembre 1683 et reconstruit sous la Restauration. Lors de la reconstruction du temple, une pierre de l'édifice ancien, portant l'inscription « Ma maison est une maison d'oraison », fut cachée dans le clocher de l'église catholique et retrouva sa place dans le temple reconstruit, où on peut encore le voir aujourd'hui. Nombreux furent dans ce petit coin de la France les fidèles qui n'abjurèrent point la vérité, des gens simples et rudes, accrochés à leur montagne et à leur foi. On a souvent rapproché les protestants et l'essor du capitalisme. C'est encore aujourd'hui ce que soutient Régis Debray dans un ouvrage dont il sera débattu ici jeudi prochain. Mais lorsque je me rappelle ma famille paternelle et les habitants, les parpaillots de ces régions pauvres et dures, je me dis que l'on ne doit pas parler des mêmes. Plus tard dans ma vie, mon fils Pierre, qui était un adolescent à l'époque un peu turbulent, fut interne pendant 2 ans au Cévenol. Il fut interne 2 ans au Cévenol, donc fondé par le pasteur Trocmé pour fomenter l'amitié entre les peuples. L'expérience pédagogique ne fut pas entièrement concluante. L'établissement, malheureusement, allait déjà mal. Mais ce fut pour moi l'occasion de renouer avec cette belle tradition d'accueil et de résistance qui est la nôtre. Je me souviens d'avoir vu avec une grande émotion dans les années 80 le très beau documentaire « Les armes de l'esprit » sur l'accueil des enfants juifs au Chambon. Et je pense notamment à l'un parmi beaucoup d'autres, le grand mathématicien Alexandre Grothendieck, qui passa son bac sous un nom d'emprunt et sans qui les mathématiques ne seraient pas aujourd'hui ce qu'elles sont. Je pense également, de par ma formation qui est au départ philosophique, à Jean Cavaillès, protestant, normalien, philosophe, résistant d'un courage inouï, exécuté en 1944 et jeté dans une fosse commune sous l'identification l'inconnu numéro 5. Georges Canguilhem rattache le choix de Cavaillès, un choix radical. Il dit « il a choisi la résistance en pleine liberté de décision et cependant, pensait-il, conformément à une exigence qui l'habitait ». Cette exigence, c'était aussi la tradition du droit de révolte, de résistance à l'oppression, qui est l'une des marques de fabrique du protestantisme réformé au lendemain du massacre de Saint-Barthélemy, dont Agrippa d'Auvigné nous fait revivre dans son poème « Les Fers » toute l'horreur génocidaire. Et je pense aussi au sujet de ce droit de résistance à mon père, maquisard à moins de 20 ans, qui avait dû se dire le jour où Il a quitté la gare de Valence pour rejoindre le maquis, qu'au fond, il ne faisait que son devoir de résistance comme tant d'autres avant lui, comme Marie Durand et ses compagnes enfermées pendant des années à la tour de Constance, la bien nommée. Ma formation, vous l'aurez compris, est d'abord philosophique et littéraire, mais j'ai été conduite au cours de ma vie à l'étude des lois et du droit, et notamment à celle de la laïcité, qui doit également beaucoup aux protestants français. Cela ressort du rôle de Ferdinand Buisson, cheville ouvrière de l'adoption de la loi de séparation des églises et de l'État en 1905, et ardent promoteur de la laïcité scolaire. C'est aussi pour moi une source d'inspiration. J'ai voulu relater en ces quelques mots le cheminement intellectuel, culturel, qui m'a conduite à rechercher mes racines familiales et culturelles depuis notamment le décès de mon père en 2008. Mais je voudrais pour conclure évoquer des raisons plus personnelles qui m'ont amenée plus récemment, à franchir le pas pour rejoindre votre Église. Baptisée catholique, comme l'a dit le pasteur, je me suis toujours considérée comme agnostique, jamais comme athée. Les épreuves de la vie, telles que nous les connaissons tous, m'ont frappée comme tout un chacun. La mort de mon père, mort réformé en Espagne, celle d'Alain, mon demi-frère, mon frère, enterré à la Mastre, celle plus récente de ma mère Joséphine. Et aussi, il y a eu les enfants qui grandissent et qui partent, les séparations douloureuses. J'ai éprouvé le besoin de trouver un sens à ces épreuves, en dehors de toute idée de châtiment ou de pénitence. Et j'ai trouvé un réconfort et une inspiration, notamment à la lecture de l'ouvrage de Paul Ricoeur et André Lacocq, « Lire la Bible ». J'ai été en particulier inspirée par la lecture qu'ils font du psaume 22 dans notre belle tradition du libre examen. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Expression de la souffrance et du désespoir même du peuple et de l'homme qui se demande, comme nous l'avons tous fait sans doute un jour ou l'autre, pourquoi moi ? C'est ce psaume que reprend Jésus sur la croix. Et comme le dit Paul Ricoeur, Jésus mourant revêt la souffrance dans les mots des psaumes qu'il habite aussi ainsi de l'intérieur. Et il explique aussi qu'il s'agit d'un combat pour la confiance retrouvée, dont l'issue n'est jamais garantie. Donc Dieu se cache souvent, il est souvent absent, caché, silencieux, inexcrutable. Mais lorsque nous le louons, comme le fait le psaume, en le louant, nous le rendons présent. Et je conclurai toujours avec Paul Ricoeur, qui évoque une possible souffrance de Dieu à l'égard de nous, qui nous appelle à une pratique personnelle et communautaire de la compassion à l'égard des frères humains, plus souvent souffrants que coupables. Permettez-moi de vous lire quatre strophes qui sont mes préférées de ce psaume, dans la belle traduction de Clément Marot. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu laissé, loin de secours, d'ennui tout oppressé, et loin de ce qui je t'ai adressé en ma complainte. De jour, mon Dieu, je t'invoque sans feinte et toutefois ne réponds ta voix sainte, de nuit aussi, et de quoi éteinte soit ma clameur. D'humeur, je suis comme tuile asséchée, mon palais est à ma langue attachée. Tu m'as fait presque être au tombeau couché, réduit en cendres. Seigneur, ta main donc ne s'éloignera, mais par pitié, secours nous donnera. Et s'il te plaît, elle se hâtera, mon Dieu, ma force. Dernière strophe. Là mangeront les pauvres à suffire. Bénira Dieu qui craint et désire. Ô vous cela sans fin, je puis le dire, vos cœurs vivront. Je remercie enfin tous ceux qui, en partageant leur savoir, car je ne connaissais rien de cette religion que mon père ne m'avait pas apprise, ou en pour moi alors que j'étais dans la difficulté, ont su se montrer le chemin du retour, ainsi que le pasteur catalan, Carles Capó, pour sa belle prédication lors des obsèques de mon père, qui a été à l'origine de ma réflexion et de ma démarche présente. Et merci à vous tous de m'avoir patiemment écouté.
Un grand merci, Isabelle, que le Saint-Esprit affermisse votre foi, vous accorde ses dons et vous les renouvelle jour après jour. Ô notre Père, nous te remercions pour Isabelle que ton amour nous permet d'accueillir aujourd'hui. Fais que son action bienfaisante rayonne de la plus belle des façons en ce monde, en pensée, en parole et en acte. Que ta joie, ô notre Père, soit notre force. Amen. Merci beaucoup.
Pour ce dimanche, je vous propose d'entendre un passage qui est à la fin de la lettre de l'apôtre Paul aux Philippiens, au chapitre 4, les versets 10 à 17. Paul écrit « J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur à voir refleurir votre intérêt pour moi. Cet intérêt, vous l'aviez bien, mais l'occasion vous manquait. Je ne dis pas cela en raison de mes besoins, car j'ai appris à me contenter de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié comme à être affamé, à être dans l'abondance ou à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à mes épreuves. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, quand j'ai quitté la Macédoine, aucune église, si ce n'est la vôtre, n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous avez été les seuls à le faire. Car à Thessalonique, déjà, il y a deux reprises, vous m'avez envoyé de quoi pourvoir à mes besoins matériels. Ce n'est pas ce que je cherche, le don, mais ce que je cherche, c'est le fruit abondant porté à votre compte. » Et puis, pour compléter ce que je vais vous raconter tout à l'heure, je vous propose de vous ouvrir à un texte fondamental, ancien, que Jésus rappelle lui-même, c'est ce qu'on appelle le Shema Israël, au chapitre 6 du livre du Deutéronome, texte qui mériterait une autre prédication une autre fois, ce que j'espère pouvoir faire bientôt. « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Et ces paroles que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les apprendras à tes enfants, tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur ta main et elles seront comme des frontons entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Ô Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. Alors je vous propose de chanter le cantique 297 dans le petit recueil Louanges et prières, ô Dieu des grâces éternelles, les trois strophes de ce cantique 297. Seigneur, nous voici devant toi pour recevoir ce que tu veux nous donner aujourd'hui. Permets que dans ces témoignages anciens que nous avons entendus dans la Bible, nous puissions chacune, chacun découvrir quelque chose qui vient de toi et que tu nous envoies personnellement. Tu nous as dit que tu nous donnerais ton esprit, eh bien c'est notre espérance, afin qu'à l'occasion de ce culte, nous recevions une lumière pour notre espérance et un cœur pour aimer.
Mmh.
Saint Augustin, dans ses confessions, relève l'importance de l'intention dans ce que nous faisons. Et il part de cette lettre, de ce passage donc, que je vous ai lu dans la lettre de l'apôtre Paul, où il remercie les Philippiens d'un coup de main matériel qu'ils ont pensé à lui apporter. Alors Paul est souvent dans des situations matérielles assez hasardeuses, compte tenu de son projet de vie, au gré de ses voyages, de sa maladie, au gré des ennuis qui lui tombent dessus, une tempête, des émeutes contre lui, un procès, des emprisonnements, etc. Et puis en fait, peu de gens pensent à lui venir en aide matériellement. Il a l'air tellement costaud peut-être. Mais les Philippiens viennent de lui envoyer un don et ce n'est pas la première fois. Alors c'est sympa parce que ça aide vraiment l'apôtre Paul, évidemment. Mais ce n'est pas ce don en lui-même qui le réjouit le plus, c'est ce que nous avons vu dans cette lettre. Augustin relève dans ce texte que ce qui remplit profondément l'apôtre Paul de joie, c'est l'intention des Philippiens. Et en effet, si on regarde ce que dit Paul dans cette lettre de remerciement, il dit que de toute façon, il a l'habitude de ne pas toujours manger à sa faim, depuis des années d'être dans des situations de galère ou d'abondance. Alors après avoir expliqué ça, Paul conclut « Ce n'est pas le don que je cherche, mais c'est le fruit. » Et le fruit, c'est ce qu'il a expliqué au début en fait, c'est l'intention des Philippiens. C'est l'intention de l'aider, de le secourir, c'est cet élan qui font que les Philippiens s'intéressent à lui et puis cherchent ensuite l'occasion, les moyens de pouvoir enfin le manifester pour l'autre. Ce n'est donc pas l'aumône, le don qui est le fruit, mais c'est l'intention de l'aumône, nous dit saint Augustin. Le don, bah oui, c'est le service rendu à l'indigence, c'est l'argent, la nourriture, le verre d'eau, la visite à celui qui est seul, en prison ou malade. Et le fruit, c'est l'intention. C'est la volonté sincère de celui qui donne ou qui aurait aimé trouver une occasion de donner ou qui aurait aimé avoir de quoi donner peut-être. Le don, ça rend service matériellement, certes. Et c'est évidemment important, parce que sans manger, on a du mal à vivre quand même, jusqu'à présent. Mais le don, c'est une conséquence de l'intention. Le don nourrit le corps, mais ce que Paul et Augustin appellent le fruit, eh bien c'est l'intention par intérêt pour l'autre, un fruit qui est nourrissant pour l'être intérieur, et même jusqu'à être nourrissant pour le corps, en fait, par chance, de temps en temps. Alors c'est vrai que cette distinction entre le don et l'intention est souvent faite dans la Bible, une fois qu'on y prend garde, et c'est même avec une insistance sur l'intention, sur la visée qui est si importante, non seulement spirituellement, mais pour un don matériel qui ensuite tombera juste, aura des chances de tomber plus juste. Par exemple, dans la bouche de Jésus, quand il dit « Celui qui reçoit un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète, et celui qui reçoit un juste en sa qualité de juste recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, en vérité, je vous le dis, il ne perdra pas sa récompense. » Alors certes, Jésus nous invite à accueillir, à aider, à abreuver, à nourrir notre prochain. Mais ce n'est pas tout à fait ce qui est écrit quand même. Jésus insiste sur l'intention, en ne disant pas seulement de venir en aide à celui qui en a besoin, mais d'aider, de recevoir, de donner un verre d'eau à un prophète en sa qualité de prophète, de recevoir un juste en sa qualité de juste et de donner à boire à un petit parce qu'il est mon disciple, nous dit-il. Alors en première lecture, ça peut sembler étrange et même choquant, comme si l'Évangile nous appelait à faire un tri entre les clients de notre générosité en cherchant les personnes, en ciblant finalement pour chercher à aider des gens, en ciblant les prophètes, les justes, les disciples de Jésus-Christ. Et du coup, les commentateurs de ce texte sont un peu gênés, Ces textes sont souvent exploités pour appeler à la solidarité avec les autres, ce qui est toujours bon à, effectivement, à noter. Mais souvent, on évite soigneusement de mentionner ce point de l'appel de Jésus, qui fait penser à une sorte de tri, quoi. Alors c'est à mon avis un tort de supprimer ces passages, même s'ils sont un peu difficiles, parce qu'il y a là quelque chose d'essentiel dans notre façon de vivre et de servir, dans notre façon d'avancer et de grandir. Jésus n'est pas tout à fait quelqu'un qui parle pour ne rien dire. S'il dit cela avec cette sorte d'insistance vrillante, eh bien c'est sans doute pour une bonne raison. Si on enlève ces choses qui nous gênent un petit peu, ce texte de l'Évangile est alors aplati comme dans une gentille petite morale un peu matérialiste. C'est bien d'aider son frère qui est dans le besoin. Ben oui, on le sait, il n'y a pas, c'est pas le monopole des chrétiens de donner un coup de main à celui qui a faim, heureusement. Mais avant d'aller plus loin, voilà, sur ce texte, peut-être me faut-il répondre donc à cette impression gênante que l'on a à la lecture de ce texte, de cibler notre solidarité sur les personnes bien comme il faut, sur le plan moral et spirituel, en négligeant les autres. Si cette idée nous choque, ben c'est précisément parce que nous sommes disciples du Christ et que c'est vraiment pas le genre du bonhomme de n'aider que les justes en prenant un air un peu supérieur et dégoûté en passant à côté de la détresse du pécheur. En lisant cette recommandation de Jésus, il faut bien avoir en tête que par définition, ce qu'apporte le Messie, le Christ, qui était attendu donc par Israël, c'est que toute personne est, avec le Christ, avec le Messie, un prophète. Et donc chacun est un prophète en puissance, homme et femme, garçon comme fille, puissant de ce monde comme le plus humble des serviteurs jusqu'au plus athée des hommes. Car telle est la promesse qui est donnée dans des prophètes comme Joël, comme Jérémie, c'est cité dans les Actes des Apôtres, bien sûr, puisque c'est la promesse attendue, quand le Messie sera venu, toute personne sera prophète à sa façon pour ceux qui lui sont confiés. Donc pour Jésus, chacun est également un juste en puissance, puisqu'il est en phase avec la grâce de Dieu, qui reconnaît ce qui est juste en chacun, et qui travaille ardemment pour rendre chacun encore plus juste. C'est la base donc de ce qu'a redécouvert Luther, mais ce qui n'était pas extraordinairement original. Pour ce qui est d'être son disciple, Jésus ne trie pas ses auditeurs. Avec des personnes faisant partie du club et d'autres non, chaque personne qui voit passer Jésus, qui le voit avoir des gestes, des attitudes, dire quelque chose, eh bien, reçoit ainsi son enseignement et libre d'en faire ce qu'elle veut, comme les plus proches de ses apôtres. Et donc, il n'y a pas, finalement, un intérieur et un extérieur au cercle des disciples de Jésus-Christ. Donc, une chose est certaine, c'est que de toute façon, Jésus ne nous encourage pas, certainement pas, à réserver notre aide à une élite de personnes, de prophètes, de justes et de disciples. C'est évidemment le contraire. Donc, qu'est-ce que veut dire cette insistance sur le « en qualité de prophète, juste et disciple » Cette parole de Jésus insiste sur l'intention du geste comme étant essentielle. Recueillir quelqu'un, donner manger à boire, voilà le don. Évidemment, c'est utile. Agir en vue de la qualité de la personne qui est en face de nous, voilà l'intention. Et c'est dans cette intention qu'est le fruit supérieurement nourrissant, un fruit de l'esprit, pour une genèse et du porteur de la bonne intention et pour le bénéficiaire du don qui viendra comme fruit de l'intention. Le don, c'est le sandwich donné à l'affamé, le fruit nourrissant et réjouissant l'un comme l'autre. C'est cette envie de le lui donner, ce sandwich, en sa qualité d'être humain, en sa qualité de frère et sœur du Christ. Le fruit nourrissant, c'est d'avoir eu envie de l'aider parce qu'il est pour nous une personne digne d'avoir un point de vue supérieur, un point de vue même divin sur la réalité de ce monde. Il est digne d'être prophète. Pour Dieu, il est déjà appelé à être prophète, cet homme que je vais peut-être aider. Et puis qu'il existe certainement quelque chose de bon dans cette personne, au moins potentiellement, et qu'elle est de toute façon un petit frère, une petite sœur du Christ. et donc mettre ainsi en valeur l'intention par rapport au don, est à mon avis le cœur de cette démarche à laquelle nous sommes appelés en Jésus-Christ. Cela met en valeur l'essentiel, et c'est aussi une très, très bonne piste, je pense, pour progresser soi-même, pour recevoir une meilleure façon d'être au monde, dans ce monde. C'est, je crois, plus prometteur. C'est une façon bien plus féconde de progresser que tout moralisme, même un moralisme que l'on tenterait de s'imposer à soi-même comme une sorte de dressage. L'intention, voilà le fruit nourrissant pour celui qui donne comme pour celui qui le reçoit. Ce n'est pas le don que je cherche, nous dit Paul, même s'il est dans le manque, ce que je cherche, c'est le fruit, et le fruit, c'est la belle intention des Philippiens. Alors, où pousse le fruit de la bonne intention? Il pousse du fond de notre être. Car c'est là-dessus que nous aurions avantage, c'est là-dessus que nous aurions avantage à travailler, nous dit Jésus. Le reste, ça viendra tout seul, comme chez les Philippiens. Nous n'aurons plus qu'à chercher une occasion et le meilleur moyen de réaliser notre belle intention pour ceux que nous avons reconnus comme nous étant confiés. Et cette recherche et ce don, peut-être, se fera alors avec joie, avec créativité, et non pas dans une obéissance qui nous prive, qui nous bride et qui nous contraint. Et du coup, le don a bien des chances d'être fait avec une profondeur, avec un respect, et puis en cherchant ce qui a le plus de chances de répondre au plus juste, aux circonstances particulières, chercher ce qui pourrait nourrir non seulement le corps de l'autre, mais aussi ce qu'il y a de plus élevé dans son humanité, son côté prophète, son côté noble en lui. Mais même dans l'attente de trouver comment donner, l'intention déjà nous travaille en profondeur, nous nourrit, nous réjouit quand l'intention est belle, ou nous empoisonne quand elle est mauvaise, même si nous n'y avons pas pris garde. L'intention est un fruit, nous dit l'apôtre Paul, et c'est sur quoi insiste Augustin, et il rend grâce à Dieu d'avoir pu distinguer entre le don et le fruit qu'est l'intention. La belle intention, c'est un fruit du travail de la bénédiction de Dieu en nous et qui rejoint ce que nous sommes personnellement. Comme le fruit de la vigne est le produit d'un terroir, et puis du temps qu'il fait, du soleil, de la pluie, et puis aussi du travail de l'homme. Parce qu'une belle vigne, ça demande du travail. Laissée à l'abandon, une vigne ne produira que quelques grappilles, et encore si l'oïdium, le mildiou et autres bestioles veulent bien laisser tranquille la vigne. Une belle et bonne intention, c'est le fruit d'une recherche intelligente de ce qui nous semble juste et bon. C'est le fruit d'une analyse de ce que nous avons fait dans notre journée, jour après jour, quotidiennement, en se levant et en se couchant, comme le dit le Shema Israël. Pourquoi nous avons fait cela? Pourquoi est-ce que nous avons réagi comme ça? C'est le fruit d'une discussion, finalement aussi, intérieure, d'une discussion avec les autres pour mieux comprendre l'humain. C'est un travail donc d'introspection et de philosophie, de connaissance du monde, de la vie. Le croyant donc fait ce travail devant Dieu, dans la prière, et en mon avis, de faire ce travail d'introspection, d'intelligence de ce qui nous anime, de le faire devant Dieu, ça change tout. Parce que bon, effectivement, ce travail sur l'intention, ce n'est pas réservé aux croyants. L'intention est une question philosophique intéressante. Il faudrait demander à nos spécialistes de nos soirées philosophie et théologie de travailler là-dessus, peut-être une autre année, parce que le programme de cette année est fait. Nous y croiserions peut-être le travail de Husserl, de Brentano, de Michel Henry, de Freud et de Sartre qui discutent entre eux sans être d'accord l'un et l'autre. Il y a là un travail intéressant pour la pensée, mais c'est aussi, et c'est d'abord, à mon avis, une question toute simple et toute concrète de philosophie de vie, de sagesse de vie quotidienne, un travail sur notre démarche intérieure, et toute personne peut commencer à travailler cela et y travailler au jour le jour pour muscler finalement sa capacité à forger au plus profond de lui-même la bonne intention. Mais ce n'est pas qu'un travail de l'intelligence, c'est aussi une question spirituelle, car ce n'est pas seulement une opinion sur le monde ou une opinion ou une sagesse, mais c'est quelque chose comme une conscience de soi-même, en particulier dans un monde particulier, dans notre existence. Et donc cela a tout à voir avec le souffle de vie et puis notre vocation personnelle. Et donc c'est bien une question de bénédiction. Cela demande de la lucidité, mais la lucidité, c'est peut-être une des choses les plus difficiles à faire. C'est pourquoi cela aide énormément de faire ce travail de recherche de lucidité sur nos actes, nos intentions, de faire ce travail après s'être imprégné de la grâce de Dieu, dans cette conscience que quoi que nous fassions, quoi que nous subissions comme Avani, comme ce pauvre apôtre Paul ou comme ce très pauvre Jésus, de toute façon, notre valeur ultime est reconnue. Nous sommes acceptés, aimés. Alors nous savons cela intellectuellement, bien sûr, on le répète, on le rabâche à longueur de prédication, mais ça ne sert à rien de le savoir, c'est à méditer, c'est à manger, à ruminer, à assimiler, jusqu'à ce que ça nous aide effectivement à commencer à être capable d'une certaine lucidité sur nous-mêmes, nos intentions, nos actes, sans être paralysés ni par la honte, ni par la peur. Alors nous pourrons commencer à bâtir et à purifier de plus belles intentions, les rendre moins égoïstes, moins écocentriques, moins pathologiques peut-être, autant que faire se peut. Alors oui, nous pourrons alors nous demander en vérité, mais pourquoi est-ce que j'ai réagi comme ça? Pourquoi, mon Dieu, viens m'éclairer? Viens élaguer cette vigne, viens soigner cette intention et en faire un fruit pour mon être, pour ma vie, qu'elle puisse en être nourrie en profondeur et produire des fruits pour mon prochain. L'intention, elle est aussi influencée par notre théologie, car toute personne est façonnée par l'idée qu'elle se fait de Dieu. Or, nous avons en Christ une conception de Dieu particulièrement inspirante, particulièrement généreuse et créatrice. Quelle chance! Nous avons la meilleure des bases possibles. Il n'y a plus qu'à. À quoi? Eh bien, à se mettre à l'écoute. Comme le conseille ce texte essentiel que je vous ai relu ce matin, le Shema Israël, qui est la base de la spiritualité juive, mais aussi chrétienne, car quand Jésus est interrogé sur l'essentiel de ce que nous pouvons faire, il répond par ce texte, « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un. » Alors, se mettre à l'écoute, c'est espérer être surpris par quelque chose de neuf, par une proposition nouvelle, dont nous ferons ensuite ce que nous voudrons d'ailleurs. C'est donc en amont d'un travail sur l'intention. C'est comme une sortie de soi-même quand même. Par l'intention, à notre tour, nous chercherons à injecter du neuf dans le statu quo du monde. Mais écouter, ça nous prépare à cela. Écouter, c'est comme une intention première dont les fruits seront nos intentions futures. Écouter l'Éternel, c'est pas nécessairement l'entendre. Cela peut arriver que nous entendions quelque chose dans la prière, dans la méditation, et que nous ne soyons pas simplement seuls avec nous-mêmes à réfléchir sur notre vie. Alors quand ça arrive d'entendre la parole de Dieu directement en nous, ça, nous ne l'avons pas choisi, de toute façon ça ne se commande pas, et peu importe si ça n'arrive pas, c'est une autre question dont nous pourrions reparler une autre fois. Mais ici il n'est pas question d'entendre la parole de l'Éternel, ça arrive si ça arrive, mais de l'écouter, de tendre l'oreille, et c'est déjà espérer du transcendant, venant intersecter notre vie très concrète, notre trajectoire, notre monde. C'est accepter que l'on ne connaisse pas la réponse par avance, ni même peut-être les bonnes questions à se poser. C'est pourquoi cette écoute, est déjà une extase, une sortie de soi, au sens littéral. Cela creuse un espace, cela creuse un vide, et c'est extrêmement prometteur pour des intentions futures, nourries au lait de l'Évangile, au lait de ce qu'est l'Éternel, notre Dieu. Comme le dit Ésaïe, ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme l'aigle. Ils courent et ne se lassent pas, ils marchent sans se fatiguer. Oui, ce « Écoute Israël » est la racine même de futures bonnes intentions. Alors « Écoute Israël », ça peut vouloir dire deux choses. Ça peut être compris de deux façons. Au sens d'écouter l'Éternel, donc dans une recherche de mystique, chacun se place dans une écoute directe, personnelle, une écoute bicotidienne, au lever et au coucher, comme tout prophète qui se respecte, une écoute pour entendre la parole de Dieu. Mais on peut aussi comprendre cette phrase comme nous disant solennellement de bien écouter la confession de foi commune d'Israël et qu'a donnée Moïse, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un. Alors quelle est la bonne lecture de ce texte ambigu, soit dans la mystique, soit dans la fidélité à des confessions de foi anciennes qui nous ont été transmises. Alors, quelle est la bonne lecture de ce texte ambigu? Dans la Bible, quand un texte est ambigu, qu'il peut avoir deux sens différents, c'est que les deux sont à conjuguer ensemble, comme les deux jambes pour marcher, surtout quand c'est dans un texte aussi construit que celui-ci et pas écrit sur un coin de table distraitement. Donc les deux sens de cette écoute qui nous sont proposés ici comme racine de notre bonnes intentions nous appellent à conjuguer la mystique et la théologie, notre subjectivité parfois fofolle et la sagesse d'une tradition ancestrale parfois lourde comme la pierre du tombeau que les autorités religieuses ont voulu utiliser en essayant de contenir le Christ. Et donc finalement ces deux écoutes se conjuguent et se corrigent mutuellement. Les deux sens nous appellent à écouter collectivement en tant que peuple, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, mais aussi à passer au singulier comme ce texte avec son « Tu aimeras toi personnellement l'Éternel ton Dieu », pas simplement le Dieu d'Israël, je ne sais pas quoi, mon Dieu, même s'il est par ailleurs le Dieu de tous. Et unifier ces deux appartenances enrichit considérablement notre travail sur l'intention. Alors nous poursuivrons un autre dimanche l'étude de ce texte, mais pour ce matin, notons seulement cette double nature de Dieu qui nous est proposée dans cette écoute, comme une unique personne ayant quelque chose à nous dire de deux façons, l'éternel, la transcendance de tendresse et de créativité, et puis Dieu, la transcendance rigoureuse qui nous appelle à ne pas faire complètement n'importe quoi de cette liberté que nous avons. Faire une unité de ça, unifier notre intention dans cette tension entre l'éternel de tendresse et le Dieu sérieux, dans cette interrogation, dans ce souffle, écouter, se concentrer sur ce « un » qui est à l'origine de notre finalité, sur cet amour qui nous dépasse, pressentir peut-être un sens que nous pourrions donner à notre temps, un début de frémissement, d'intention peut-être déjà s'esquisse dans notre conscience, dans notre désir, d'autres intentions peut-être s'estompent déjà. Éternel, tu soutiens les hommes et les bêtes. Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu, auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Amen. Merci beaucoup. Et je vous propose de chanter au psaume 118 dans le psautier français, la première et les deux dernières strophes de ce psaume de louange à Dieu. Célébrez Dieu, rendez-lui grâce, car éternel est son amour. Un grand merci au chœur de l'oratoire, à son chef Fabien Aubé et à Aurélien Peter qui est à l'orgue. Alors le chœur de l'oratoire recrute, il y a une répétition tous les jeudis, sauf vacances scolaires, et un samedi par mois de technique vocale, des beaux concerts en préparation. Donc vous pouvez prendre rendez-vous avec Fabien pour une audition. C'est vrai que le niveau du chœur s'élevant, il faut quand même connaître un peu la musique pour accéder à l'honneur de faire partie du chœur. Donc il y a aussi des papiers sur la table de la sortie, en particulier en ce qui concerne le chœur, mais aussi de toutes les activités de notre paroisse qui vont reprendre progressivement. Alors je voudrais avoir aussi une pensée pour Sarah Kim, une de nos organistes qui a donné naissance hier à un Aristide. Une pensée pour Christine Demesse et Daniel Joanneau, donc deux de nos conseillers presbytéraux qui se sont mariés hier à Récuvire. Une pensée aussi avec Eva Galland et Agathe Durussec qui donc se sont mariés vendredi dernier. Une pensée pour la famille et les amis de Thierry Lucas qui a été aussi membre du chœur et qui est donc mort il y a un mois exactement aujourd'hui. Nous aurons un culte pour remercier Dieu pour la personne de Thierry Lucas, samedi prochain, ici à 15h. Et nous avons une pensée donc pour la famille de Thierry Lucas. Cet après-midi, il y a les journées du patrimoine avec de courtes conférences illustrées de pièces d'orgue jouées par Aurélien Péter, et puis des expositions nouvelles aussi, une sur la réforme à Paris, une sur la réforme expliquée aux enfants. Merci aux bénévoles qui ont préparé ces expositions et qui seront là cet après-midi pour accueillir les visiteurs. Alors les activités reprennent, le catéchisme et l'éducation biblique, c'est bien reparti déjà il y a la semaine dernière. Les étudiants et jeunes actifs vont reprendre donc mercredi à 19h30 avec un dîner partagé et un débat sur comment supporter les autres, voilà, pour bien lancer l'année. Jeudi ici, il y a une table ronde et un débat à 20h avec Régis Debray et Olivia Bell sur Macron, Ricoeur et le protestantisme. Samedi, il y a l'hébreu biblique découverte qui commence avec le pasteur Gilles Castelnau. C'est ouvert à tous les niveaux, d'hébraïsant ou non. Et il y a le banquet des lycéens à 12h30, 1h. Donc c'est pareil, tout se passe aux 4 rues de l'Oratoire en face. Alors vous pouvez inviter des lycéens à venir, mais il faut quand même qu'ils s'inscrivent pour qu'on prévoie l'intendance. Et puis à 18h, samedi prochain encore, eh bien, il y a de 18h à 19h, le partage de prières, méditations, lectures, chants avec le pasteur Richard Cadou. Eh bien, dimanche prochain, c'est l'installation donc de Richard dans ses fonctions de pasteur à l'oratoire, avec aussi la célébration de la scène. Les autres groupes, le groupe biblique, le groupe biblique œcuménique, philosophie et théologie, l'initiation à la théologie, les langues bibliques reprendront progressivement. Et en particulier, nous recherchons un professeur de grec pour faire du grec débutant, un cours de débutant pour le grec, parce que Aurore Mériot a changé de fonction, elle fait ça depuis plusieurs années, bénévolement, et elle va garder un seul cours, le cours d'approfondissement, parce que ça fait un peu lourd quand même. Tous les autres enseignements, vous les trouverez dans la feuille rose, le bulletin, et sur le site internet. J'espère, sinon vous pouvez nous contacter. Les diacres de notre église, maintenant, vont recueillir notre offrande, et c'est vrai que l'Église ne peut vivre que par le don des paroissiens. Et c'est aussi une façon de replacer en perspective dans notre existence la place du spirituel. Nous prions Dieu. Ô Dieu, tu es la source toute proche. À toi de nous donner la vie, à toi de nous nourrir, de nous conduire, de nous protéger, de nous conserver, de nous sanctifier par ton appel, à toi de nous fortifier par ta bénédiction. Tu n'as pas dédaigné de nous appeler ton enfant, eh bien soutiens-nous de ton amour. Donne-nous ainsi un cœur de chair pour nos frères et sœurs. Accorde-nous d'être enflammés de ton esprit et à être ainsi prophètes en ce monde, d'être affermis par ta force et d'en bien user pour ceux qui nous sont confiés. Et unis dans une même foi en toi, dans la même consécration à ton service, en communion avec tous les croyants de toutes les églises, nos cœurs élèvent vers toi la prière que le Christ nous a donnée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous abandonne pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et nous recevons maintenant, chacun en particulier, la bénédiction de Dieu sur notre existence. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, toi, qu'il t'accompagne. Que l'Éternel fasse briller sur toi sa lumière et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel lève son visage vers toi et te donne la paix. Oui, demeure par ta grâce avec nous, Dieu Sauveur. Amen.